En automne, quand je fais un footing de grand matin, l'herbe est souvent mouillée, même s'il n'a pas plu. Alors, je rentre avec chaussettes et chaussures trempées, et c'est très désagréable. Par contre, si je vais aux champignons, je suis bien content qu'il y ait de la rosée, car elle fait sortir de terre les petits gris, roses des prés, et les boules de neige qui sont délicieuses dans une omelette. Dans l'Ancien Testament aussi, la rosée est toujours considérée comme un bienfait de Dieu. Quand Isaac prononce la bénédiction patriarcale sur son fils Jacob, il lui dit « Que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende ta terre fertile et qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. » Par la suite, Jacob bénit lui-même son fils Joseph d'une manière similaire quand il lui dit « L'Éternel bénit son pays par la rosée précieuse qui vient du ciel et par les eaux profondes des nappes souterraines. » Après avoir prononcé la bénédiction sur chacun de ses fils, Jacob bénit la nation qu'il forme en disant « Israël demeure dans la sécurité. » La source de Jacob jaillit bien à l'écart vers un pays où poussent le froment et la vigne, et où le ciel distille la rosée. Tout ça pour dire que dans les pays chauds comme la Palestine, la rosée est extrêmement importante et une bénédiction. En Israël, de mai à octobre, il ne pleut pas. Et c'est l'époque des grandes chaleurs. Dans ces conditions arides, la survie de la végétation ainsi que les récoltes d'été dépendent de l'abondance de la rosée. Je continue de lire dans le premier chapitre du livre d'Agée. « Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison, voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. » Non seulement l'Éternel retient la pluie, mais également la rosée qui fait partie des bienfaits qu'il accorde à son peuple. L'absence de rosée fait partie de la longue liste des malédictions de la loi que Moïse a prononcée. Dans le livre du Deutéronome, on lit « Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. » Je continue le texte. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. En hébreu, les mots épée et sécheresse s'écrivent pareil. Ils ont les mêmes consonnes, et c'est leur vocalisation, c'est-à-dire la façon de les prononcer qui donne à chaque mot leur sens. Par écrit, c'est le contexte qui dit qu'il s'agit de l'épée ou sécheresse. Or, les anciennes versions grecques et syriaques traduisent épée au lieu de sécheresse. Même si ce choix est grammaticalement correct, il est surprenant, parce qu'il ne cadre pas du tout avec le reste du texte. Alors qu'ici, l'Éternel appelle la sécheresse, et non l'épée, comme moyen de jugement, à l'époque du prophète Élie, il avait appelé une famine. C'est Dieu qui contrôle tous les caprices de la nature. Cette sécheresse qui frappe les colons juifs s'étend partout, en plaine aussi bien sur les monts et collines qui sont cultivés en terrasse. Le prophète Ésaïe parle de coteaux fertiles, et Joël dit qu'un jour, le vin nouveau coulera des montagnes, et les coteaux ruisselleront de lait. Ici, Dieu est fâché avec son peuple, et il a fermé le robinet du ciel. Cette malédiction qui est dirigée contre les produits du sol a pour but d'attirer l'attention des colons juifs sur le temple de l'Éternel qui est en ruine et qui attend toujours sa restauration. Dieu sabote le travail des champs des Israélites en ne permettant pas qu'ils récoltent le fruit de leur dur labeur sous la forme d'une bonne récolte. Mais plus, tous les êtres vivants, hommes et animaux, vont pâtir de cette situation. Toutes les tragédies qui font partie de l'existence, comme la maladie, les accidents et les catastrophes naturelles, sont dues au péché de l'homme. Cela veut aussi dire que dans la majorité des cas, mes problèmes personnels proviennent du fait que je fais partie d'une race maudite et non pas d'une faute particulière que j'ai commise. Cela dit, quand une tuile me tombe sur la tête, je m'interroge quand même pour essayer de discerner si Dieu est en train de me tirer les oreilles à cause d'une mauvaise action que j'ai faite, ou bien s'il veut simplement me faire passer dans le creuset de l'épreuve pour affiner mon caractère. Quand une catastrophe arrive, la première réaction est de demander pourquoi. Mais il est généralement très difficile de trouver une réponse. Ensuite, on cherche à blâmer une instance gouvernementale parce qu'il faut absolument un bouc émissaire, quelqu'un qui soit déclaré coupable. Certains n'hésitent pas à lever le poing au ciel, un comportement ridicule et pathétique. Cependant, il est exact que tout bien considéré, puisque Dieu est le souverain absolu de cet univers, c'est lui qui décide les tragédies, les petits tremblements de terre et les grands cataclysmes. Agée parle de la sécheresse sur le blé, sur le vin, sur l'huile. Ces trois produits apparaissent souvent ensemble dans les Écritures, parce que ce sont des cultures de base de l'agriculture palestinienne. Dans le psaume 104, le psalmiste écrit « Du haut de ses palais, Dieu verse la pluie sur les monts. C'est toi qui fais prospérer les plantes pour les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur. » Ces trois produits de la terre sont mentionnés dans les formules de bénédiction et de malédiction de la loi. Je lis deux passages tirés du livre du Deutéronome. Je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Vous mourrez de faim, car ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni veau, ni agneau, ni chevaux, jusqu'à ce qu'il vous ait fait périr. J'ai eu l'occasion de dire que le prophète Agée n'est pas vraiment poète. Mais ici, il fait quand même un jeu de mots. Quand il écrit « Parce que mon temple est en ruine, j'ai appelé la sécheresse. » En hébreu, il y a une assonance entre ruine qui se dit « Shareb » et sécheresse qui est « Shoreb ». Ce rapprochement de sonorité est comme un écho qui établit un lien direct entre l'état délabré du temple et des récoltes misérables. Ce n'est pas que Dieu se venge, mais il châtie son peuple dans le but de l'amener à prendre conscience qu'il sera coupable en ne pensant qu'à son bien-être et en ignorant le droit de l'Éternel. Mais dès que la reconstruction aura recommencé, Dieu étendra sa bénédiction sur les colons juifs, et une fois le temple en fonctionnement, il habitera au milieu d'eux. En Occident, nous bénéficions d'un climat tempéré favorable entre la mer et l'océan et à proximité des massifs montagneux, ce qui fait que même quand nous avons des sécheresses prolongées, elles ne durent pas indéfiniment. De plus, comme nos sociétés sont plutôt industrielles qu'agricoles, et qu'elles sont axées sur les échanges commerciaux, à moins d'une tragédie sans précédent, nous continuons à vivre normalement, quels que soient les caprices de la nature. Parfois, il faut arroser le jardin tous les jours, et le gazon sèche. Mais ce n'est qu'un petit inconvénient. Par contre, dans les sociétés agraires, qui dépendent uniquement des récoltes agricoles pour leur survie, l'absence prolongée de pluie est une catastrophe sans nom. C'est le cas en Afrique, et un peu en Australie, par exemple. où d'immenses zones sont désertiques, ce qui a forcé les populations à fuir. Je continue le texte d'Alger. Alors Zorobabel, fils de Sealtiel, Josué, fils de Iosadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé que l'Éternel, leur Dieu, leur avait envoyées, et le peuple éprouva une crainte respectueuse envers l'Éternel. Il est rare dans l'histoire d'Israël qu'un prophète reçoive un tel accueil. Une réponse aussi rapide et favorable au message qu'il donne au peuple de la part de l'Éternel. Mais c'est bien ce qui est arrivé. Les chefs et les colons eux-mêmes adoptent deux attitudes nobles. Ils écoutent la parole de Dieu et y croient. Et ils se font tout petits devant l'Éternel. Voilà une très bonne disposition d'esprit, car comme le dit un proverbe, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Il faut dire aussi qu'au vu des malheurs qui les ont frappés, les colons se sont probablement dit que ça commençait à bien faire, et ils craignaient peut-être aussi de nouveaux châtiments. Il est intéressant de remarquer que les dirigeants, Zorobabel et Josué, sont mentionnés en premier. Ce sont eux qui donnent le ton et battent la mesure. Quand les chefs prennent la bonne direction, en général, les moutons suivent. Ce principe est également valable pour les nations. En France, au poste clé du gouvernement, nous avons besoin de gens capables qui aient une crainte respectueuse de Dieu. Mais ce n'est pas trop le cas, car la plupart de ceux qui nous gouvernent font de la politique pour leur propre avantage. Exactement comme Isnogod, qui veut être calife à la place du calife. Se prenant pour les brillants produits de la sélection naturelle des espèces, ils se croient tout permis et utilisent leur position pour augmenter leur toison, soigner leur blason, avancer leur pion sur l'échiquier et se remplir les poches. Je continue le texte. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmis au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. « Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Agé est le seul prophète de l'Ancien Testament qui se déclare le messager de l'Éternel. Ce rôle et ces paroles appelées « le message de la part de l'Éternel » sont mis en évidence dans ce verset plus que dans tout autre de ce livre. L'origine divine de toutes les déclarations d'Agé est clairement affirmée. Même si Agé est seul à se déclarer le messager de l'Éternel, ce titre est fréquent, et c'est aussi la signification du nom Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Dans sa prophétie, il applique le terme messager au prêtre, à Jean-Baptiste et au Messie, le Seigneur Jésus. Ici, le message d'Agé n'est plus une menace, mais une parole d'encouragement. Il promet à la petite colonie juive la faveur de l'Éternel et lui garantit son secours. En hébreu, l'expression « je suis avec vous » n'a que deux mots. « Je est avec vous. Je suis avec vous » apparaît encore deux fois dans le chapitre suivant. Cette garantie de la présence de Dieu et de son soutien devrait suffire au peuple pour balayer toutes leurs appréhensions concernant la reconstruction du temple. En effet, « je suis avec vous » ou « avec toi » ne sont pas de vaines paroles en l'air, puisque ce sont les mots que l'Éternel a prononcés aux ancêtres Abraham, Joseph, Josué, Moïse, Gédéon et Jérémie. « Je suis avec vous » est la promesse immuable d'un Dieu immuable et qui ont toujours poussé les hommes à croire et agir. Par ailleurs, juste avant de quitter cette terre, Jésus dit à ses disciples, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » Puis il leur dit cette promesse solennelle, « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Je continue le texte d'Agé. Si l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Josadac, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. Le premier signe des dispositions nouvelles qui animent le peuple est un nouveau zèle, qui se concrétise quand ils se mettent à l'ouvrage au temple. Quand Saül, premier roi d'Israël, décide de n'en faire qu'à sa tête au lieu de suivre les directives que lui a données l'Éternel, le juge Samuel lui dit « L'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. » Âgé présente la réaction des colons et de leurs dirigeants comme les résultats d'une œuvre que l'Éternel accomplit en eux. 18 ans plus tôt, Dieu avait déjà œuvré dans le cœur de certains membres de la communauté juive afin qu'ils aient à cœur de quitter Babylone, où ils sont alors plutôt confortablement installés, de retourner dans leur pays et de le reconstruire en commençant par le temple. Il faut comprendre que si les Israélites obéissent aux exhortations d'Agé, et je vais être un peu cru dans mes propos, c'est parce que Dieu leur a mis le feu aux fesses. Ça brûle, et il n'y a rien de tel pour faire avancer quelqu'un. C'est bien ainsi qu'au travers de l'histoire, l'Éternel s'est comporté envers les Israélites. Quand ils tombent très bas dans l'idolâtrie, il les secoue en leur suscitant des ennemis. Dans les deux livres des Chroniques, on lit que l'Éternel excita contre eux l'esprit des rois d'Assyrie, des Philistins et des Arabes. La race humaine est pathétique et les croyants en font partie. À moins d'une intervention du Saint-Esprit, je m'enfonce dans l'immobilisme, je ne change pas et je ne fais rien d'utile pour le royaume de Dieu. Et, de toute façon, j'en suis incapable. Heureusement, l'apôtre Paul déclare aux Philippiens, « C'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. » Quand Dieu décide d'accomplir une certaine œuvre sur la terre, il choisit les personnes susceptibles de la réaliser. Il leur donne envie de se lancer dans ce projet et pourvoit à tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils l'accomplissent avec succès. Mais comme, en ce bas monde, rien n'est parfait, il est bien rare que l'opération ronronne au début jusqu'à la fin sans accroche. Preuve en est que la construction du temple, qui s'est bien faite, mais avec beaucoup de difficultés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Dieu n'accomplit pas toutes ses volontés tout de suite. Par contre, tous ses décrets sont appliqués en temps voulu. C'est très déroutant, et l'exemple type de ce paradoxe est la faute commise par Adam et Ève. Il est évident que Dieu ne voulait pas qu'ils lui désobéissent, pourtant il s'est arrangé pour que le diable les tente. Il ne les a pas empêchés de manger le fruit défendu, et il n'a pas suscité en eux le vouloir le faire, de lui rester soumis. Pour nous, la volonté de Dieu est un mystère qui nous dépasse complètement. Cependant, et sachant que c'est l'Éternel le grand patron, notre intérêt est de faire ce qu'il dit. Or, il a décrété qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Alors vouloir chercher ailleurs est un acte de rébellion contre lui. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui ?» Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Les colons juifs ont pris leur outil et sont allés sur le chantier du temple. C'est l'Éternel qui a suscité en eux la foi et l'obéissance en réponse à la prédication du prophète. Et c'est la même dynamique qui opère chez les croyants sous la nouvelle alliance. mes penchants naturels m'orientent à faire ce que je veux et à quitter le droit chemin. Si le Saint-Esprit ne me met pas sur les rails, je me perds dans la nature, et comme une brebis, je finis par me retrouver face à un loup, c'est-à-dire une tentation quasi irrésistible. Je finis maintenant de lire le premier chapitre du livre d'Angers. Ils se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois est la 2e année du règne de Darius. Nous sommes le 21 septembre de l'an 520 avant Jésus-Christ. La proclamation du prophète Agée a eu lieu le 29 août, et les colons acceptent immédiatement de reprendre la construction du temple. Cependant, les travaux ne reprennent que 23 jours plus tard, un délai mentionné pour montrer l'empressement des colons à obéir. En effet, si on considère que le chantier du temple est interrompu depuis plus de 15 ans, le redémarrer en 3 semaines est un accomplissement phénoménal. Ces 23 jours de battement sont nécessaires pour 2 raisons. Premièrement, c'est l'époque de la récolte des figues, des raisins et des grenades. A priori, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il faut quand même les engranger. Il se peut aussi que Dieu ait fait un miracle et que les fruits se soient multipliés ou qu'ils sont devenus énormes, et donc il y a beaucoup à faire pour les récolter. Deuxièmement, il faut préparer le chantier, c'est-à-dire organiser les équipes de travail, chercher les matériaux, aller à la montagne, couper les arbres, les descendre et scier les planches, etc. Tout ça prend du temps, mais si j'ai l'esprit bien disposé, Dieu est prêt à m'attendre, car il n'est jamais pressé.